Salut tout le monde et bienvenue à une autre édition de Sortie de zone, édition du vendredi 22 janvier 2021. Mon nom c'est Jérémy Filosa. Très heureux de vous retrouver pour cet autre balado hockey. Et pour participer à l'émission d'aujourd'hui, on reçoit nos deux comparses de la presse, Simon-Olivier Lorange et Alexandre Pratt. Salut les gars!
Salut!
Et Michael Lalancette dans nos studios à Québec. Salut, Michael.
Salut.
Michael qui est devenu maintenant un régulier de l'émission. Les gars, je peux pas croire que le Canadien, présentement, trône au sommet de la Ligue nationale de hockey. Et ce sera pas notre premier sujet. Imaginez, je tombe en bas de ma chaise, mais c'est la réalité. Il y a de l'actualité qui est tombée en fin d'après-midi, en milieu d'après-midi, et on n'a pas vraiment le choix d'en parler parce que c'est vraiment le sujet chaud présentement sur les médias sociaux, un peu partout sur la twittosphère et compagnie. C'est l'information qui a été divulguée par notre collègue, votre collègue, les gars, Mathias Brunet, qui nous apprend que les fameux termes du contrat qu'aurait refusé Philippe Danault durant la saison morte sont quand même assez intéressants. On parle d'un contrat potentiel qu'on lui aurait offert de 6 ans d'une valeur de 30 millions de dollars. Et là, c'est sûr que les gens entendent ça et ils tombent un peu en bas de leur chaise parce que en entendant les propos récents de Philippe Danault qui n'a pas vraiment voulu beaucoup parler des négociations mais nous a plutôt fait entendre qu'il n'y en avait pas vraiment de négociations et on a trouvé ça un peu curieux. Il y en a qui ont lancé la pierre à l'organisation du Canadien, mais avec cette information qui nous provient de la presse, 30 millions pour 6 ans, de voir que Philippe Danault aurait dit non, je lève le nez là-dessus. Disons que c'est un petit peu surprenant. Alex, on peut commencer avec toi si tu veux bien.
Ouais, mais moi, je suis pas nécessairement surpris, Jérémy, parce que je pense que dans un marché ouvert, là, pré-COVID, Philippe Danault, c'est un joueur qui aurait pu aller chercher 6,5 millions par saison pour vraiment un très long terme. Et je pense que son équipe en fait de conseiller est restée un petit peu sur des chiffres qui doivent ressembler à ça, là, quelque part entre 6 et 7 millions par saison sur du long terme.
Wow.
C'est un joueur qui a des statistiques très avantageuses. OK, c'est pas Connor McDavid, là, il fera pas 100 points par année. Mais tu sais, les directeurs généraux regardent principalement deux grandes statistiques. Les buts pour et les buts empêchés. Mm-hmm. Les buts qu'un joueur peut empêcher. Et à 5 contre 5, Philippe Danault joue systématiquement contre les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, les meilleurs joueurs des autres équipes. Et il est quand même parmi les 5 joueurs de la Ligue nationale qui ont le plus souvent la rondelle à force égale. Là, t'sais. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de prévenir la production de points par l'autre équipe. Ça vaut très cher, ça se paye. Donc, ouais. Il devait évaluer qu'il devait valoir quelque part entre 6 et 7 millions. Bon, maintenant, on sait que le plafond salarial va être gelé pour plusieurs saisons, peut-être 3, 4, 5 ans. Là, on est encore dans les schémas là-dessus. Et c'est sûr que Philippe Danault n'aura plus 7 millions ou 6,5 millions sur le marché libre. Et donc, il va devoir moins. Le Canadien a offert 5 millions par saison. Ma compréhension, c'est que le clan Danault a trouvé cette offre un petit peu insultante. Ça a comme un petit peu mis fin aux discussions cet été. Mais voyant qu'il joue encore avec Tatar et Gallagher, je pense que Danault est plutôt satisfait de la façon dont les choses se passent présentement et le terreau semble fertile présentement à une reprise des négociations.
OK. Je vais vous laisser parler avant de donner mon opinion. Simon-Olivier, là-dessus?
Ben en fait, je pense qu'Alexandre a quand même assez bien résumé la situation. Tu sais, quand Danault nous a dit qu'il n'y avait pas de négociation, selon ce qu'on comprend du texte de Mathias, c'est que c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas de négociation parce que le clan Danault aurait pas fait de contrat, faudrait pas relancer le Canadien pour les raisons qu'Alexandre vient juste d'expliquer. Si effectivement tout s'est passé comme ça, et c'est ce que j'ai l'impression que j'ai si Mathias l'a écrit, c'est clairement une erreur de calcul ou de stratégie du clan Philippe Danault, mais encore une fois, comme Alex le souligne, il y a rien qui s'arrange pas là-dedans, et si l'intention de Danault et du club, c'est d'avoir une relation à long terme, ben quelque part autour de 5 millions, je pense que c'est quelque chose de raisonnable pour le statut de Danault au sein de l'équipe et au sein de la Ligue nationale aussi. Je reviendrai probablement plus tard, mais tu sais, moi j'ai quelques nuances par rapport à ce qu'Alex apporte côté salaire pour des comparatifs. Et tu sais, je pense que à 5 ou peut-être 5,3, 5,5 millions, je pense que les deux camps feraient un bon deal.
Michael?
Ben, moi je suis d'accord avec les gars. Puis ce qui que je suis un petit peu ambivalent, c'est le fait qu'on n'a pas eu de retour, on n'a pas eu de contre-offre. Moi, on adore tous Philippe Dano. On veut tous le voir rester à Montréal pour les raisons qu'Alex a bien décrites. Mais ça veut dire que si tu fais pas de contre-offre, ça veut dire que tu es tellement loin de t'entendre. Mais là, tellement loin, on est rendu où? Dans la réalité du Canadien, ouais. On peut pas se permettre d'accorder 6 millions et demi, 7 millions de dollars par saison à Philippe Dano. C'est impossible. Alors, on veut le garder, mais je reste un petit peu sur mon appétit parce que la COVID a changé la réalité de la Ligue nationale, puis on le voit aujourd'hui avec ce qu'on voit, les échos de NBC, comme quoi on débrancherait les propriétés sportives donc du réseau. Ça va avoir une incidence pour les prochaines négociations sans doute de la Ligue nationale, ce qu'on va être capable d'aller chercher comme revenu de la part des diffuseurs aux États-Unis. Alors, je me pose certaines questions. On veut voir Philippe rester à Montréal, mais à quel prix? C'est la réalité du Canadien qui permet pas n'importe quel genre de contrat avec Dano.
Écoute, moi, les gars, là, je vous le dis, là, je suis assommé. Je suis assommé parce que si t'es Philippe Dano, puis 5 millions, ça t'insulte. Tabarouette, on est rendu où dans le monde, là? Je veux dire, je peux bien comprendre là, qu'il peut se passer important, puis les statistiques que tu as amenées, Alexandre, sont vraiment intéressantes. Mais on va se le dire, des salaires de 7 millions, là, c'est pour des superstars dans la ligue.
Oui.
Tu sais, je veux dire, c'est pas. Je l'aime, Philippe Dano, les gars, là, mais à un moment donné, il faut pas ambitionner. Je ne ferai pas de Philippe Dano, parce que si tu lui donnes plus que ça, il devient ton attaquant le mieux payé du Canadien de Montréal au moment où on se parle.
Mais ça n'arrivera pas, Jérémy. Tu sais, je pense que. Il est plus réaliste, ou en tout cas son clin est plus réaliste, je crois, qu'il était cet été au moment des négociations. Puis il est arrivé plusieurs choses depuis quand même, parce que l'offre a été faite, selon les informations de Mathias Brunet, entre celle à Jeff Petrie et celle de Brendan Gallagher. Mm-hmm. Mais depuis, Gallagher a signé, il y a plusieurs joueurs autonomes qui ont signé. Puis je pense que c'est un petit peu plus facile de prédire à ce moment-ci le salaire que pourrait toucher Philippe Dano que ce l'était cet été, alors qu'on commençait à naviguer là dans le gel du plafond salarial. Puis c'est pas trop clair où est-ce qu'on s'en allait. Moi, je pense plus qu'il y a tant de différence que ça entre les deux clans. Mmh. Et je pense aussi que, Mathias sort la nouvelle aujourd'hui. Ça veut dire que quelque part, si on lit le texte quand même de Mathias, on comprend que le Canadien est prêt à négocier. Mmh. Et le Canadien, tu sais, c'est même Mathias qui l'avance. Le Canadien est prêt à offrir quelques centaines de milliers de dollars de plus que 5 millions par saison au Canadien à Dano. Je pense que quelque part, entre 5,2 et 5,5 millions par saison pour un contrat de très longue durée, donc 5 ans, 6 ans, il y a matière à s'entendre dans les deux clans.
Parce que Simon-Olivier, quand je regarde ça, je pense pas que Philippe Dano a le goût de risquer, disons, sa carrière avec le Canadien sur quelques centaines de milliers de dollars. Écoute, moi, je vais reculer à Alex Kovalev, souvenez-vous, qui s'était obstiné avec le Canadien pour moins qu'un million, si je me souviens bien. Il s'était retrouvé avec les Sénateurs, mais il était pas très, très heureux de la tournure des événements. Philippe Dano, je pense que c'est un gars qui est quand même heureux ici à Montréal. Si jamais ses agents devaient l'échapper, puis on devait dire à Philippe, écoute, finalement, ben garde, il n'y en aura pas de place pour toi parce que t'as attendu trop longtemps. Puis là, ben garde, on a signé ta tort entre-temps, puis garde, c'est just too bad, mais t'as manqué ta chance. Ouh, je pense pas qu'il serait trop content, là.
Ben, je pense pas, en effet. Puis cela dit, moi, j'ai pas d'informations sur l'état d'esprit de Dano. Mais tu sais, ton hypothèse a énormément de sens. Dans le sens, Dano, c'est un gars d'ici. C'est un gars, je pense, qui a montré qu'il était qui aimait jouer ici au Québec. C'est un gars qui a donné énormément pour le Canadien. Tu sais, Dano, mine de rien, là, peut-être que les gens qui le voient à la télé s'arrêtent pas à ça, mais Philippe Dano, il sort presque tous les soirs pour commenter les matchs après les rencontres. À l'ère où on était dans le vestiaire, là. C'est sûr que maintenant, en Zoom, c'est plus limité, mais... Tu sais, c'était souvent la grande majorité du temps, puis t'étais là, Jérémy, aussi souvent, la clip en français, puis qu'il affrontait les journalistes, puis dans les moments difficiles l'année passée, juste avant que la pandémie frappe, là, c'était pas des bons moments. Puis Dano, il venait, puis il répondait aux questions, puis je pense que c'est un gars qui a beaucoup donné, qui veut rester ici, qui est engagé. Maintenant, c'est voir, tu sais, les commentaires qu'il y avait eu un peu à la fin de la dernière, après l'élimination du Canadien, c'était un peu dans le sens, tu sais, je pense qu'il voulait être considéré comme le premier centre.
Ouais.
Je sais pas où est-ce qu'il en est dans sa tête là-dessus présentement avec l'ascension de Suzuki et celle de Kotkaniemi. Je pense que ça va beaucoup peser dans la balance un peu, voir où le Canadien le voit et où lui se voit. puis comment tout ça va se traduire en dollars.
Mick, peut-être un petit commentaire, dernier commentaire là-dessus avant de changer de sujet.
Ben, j'enchaînerai sur le point un peu de Simon Olivier sur sa place dans l'échiquier hockey du Canadien, puis on regarde juste le dernier match, 11 minutes 28 sur 18 présences. Mm-hmm. Le rôle de Dano a changé là dans l'espace de 2 ans, puis je dis pas que ce qu'il accomplit pas sur la patinoire n'a plus de valeur, mais on doit mettre ça dans son contexte pour les prochaines années.
Bon, OK. Les gars, normalement, là, on traite du Canadien au début de l'émission, puis on passe aux autres sujets de la Ligue nationale ensuite. Mais aujourd'hui, il y a un sujet qui est, disons, hors dimension, et c'est une histoire qui continue à faire couler de l'encre. C'est celle de Pierre-Luc Dubois. On va essayer de mettre ça de côté tout de suite, parce que, bon, Pierre-Luc Dubois, hier soir, n'a joué que 3 minutes et des poussières avec les Blue Jackets. John Tortorella l'a laissé sur le banc pour la grande majorité du match. Sauf qu'on a aussi vu des images de Dubois qui se traînait les savates, comme on dit, sur la patinoire. C'était pas très beau à voir. Et là, je commence à voir tranquillement, pas vite, sur les médias sociaux, qu'on ne lance plus seulement la flèche à John Tortorella, mais on trouve que Pierre-Luc Dubois se nuit à lui-même en agissant de cette façon-là. Alex, veux-tu commencer là-dessus?
Ben, OK. Tu sais, Pierre-Luc Dubois s'est vraiment pas aidé, je crois, hier. En fait, ceux qui l'ont pas vu, donc, c'est une présence très longue, comme une quarantaine de secondes, dans laquelle il ne fournit aucun effort. Et pour revenir au banc, il est dans le coin de la patinoire. Pour revenir au banc, ça lui prend 10 secondes. Ouais. Et vraiment, il patine pas du tout. Là, je veux dire, je patine beaucoup plus vite que lui par en arrière. Juste dans l'effort qu'il fournit.
Ça n'a pas l'air intenté, là.
Non, les gens n'ont pas apprécié, mais ses coéquipiers non plus. T'sais, hier soir, j'ai écouté j'étais à la conférence de presse des Blue Jackets. Puis on a demandé à Olivier Bjorkstrand, qui est un de ses coéquipiers, est-ce que tu trouves que Dubois est un bon coéquipier présentement? Puis Bjorkstrand a répondu, je vais pas commenter ça. C'était quand même plutôt raide en plus. C'était sur un ton sec. Ouais. Dubois, c'est connu, ne veut plus jouer à Columbus. Est-ce que sa présence d'hier était volontaire dans le sens où il fait tout pour être échangé? On attendait des réponses aujourd'hui, puis je suis un petit peu déçu de la façon dont il a géré la situation. Je pensais qu'il était vraiment pour nous donner un petit peu de jus, là, pour vraiment expliquer son cas, pourquoi hier il a joué comme ça, pourquoi depuis le début de l'année c'est compliqué, c'est quoi le cœur du problème? Est-ce que c'est vraiment avec Tortorella? Parce que c'est pas nécessairement les échos qu'on a. Mais je suis resté sur ma fin là, de son point de presse d'aujourd'hui. Je pense que Simon Olivier t'a écouté d'ailleurs.
Ben justement, t'as écouté le point de presse aujourd'hui de John Tortorella. J'ai lu ses propos, mais peux-tu nous en faire un petit résumé, s'il te plaît?
Ben, Tortorella, en fait, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, faut tous reconnaître sa grande franchise. C'est pas un coach qui fait dans les secrets.
Un bon italien. On a rarement la langue dans nos poches. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Je vais te laisser tirer des conclusions à ce sujet-là. mais en fait, pour le point de presse a commencé sur une question sur un autre sujet, plus des affaires courantes. Et Aaron Portzine, qui du média web, The Athletic, qui est vraiment le godbeat des Blue Jackets depuis leur arrivée dans la Ligue nationale, a interrogé Tortorella sur Dubois. Et Tortorella est parti carrément là un monologue à ce sujet-là en disant bon ben j'assume qu'on va vider la question, et je pense qu'il n'y a pas eu raison là-dessus parce que clairement elle n'est pas vidée. Mais tu sais, il a parlé de son travail à lui comme coach, que tu sais, il y avait 23 joueurs à gérer, pas juste Dubois, que dans la réalité d'aujourd'hui c'était de gérer des jeunes joueurs qui pensent différemment. Il a parlé de prima donna sans nécessairement pointer Dubois, mais tu sais, on s'entend, on relie les points d'athlètes qui des fois attendent pas leur tour ou sont impatients, tout ça. Fait que, tu sais, c'était pas du tout élogieux. Puis, tu sais, c'est aussi une nuance qui est faite rapidement, puis j'ai trouvé ça très intéressant, c'est il y a beaucoup de parallèles qui sont faits avec la situation de Sergei Bobrovsky et Artemi Panarin il y a 2 ans, deux joueurs dont tout le monde savait qu'ils voulaient quitter Columbus, mais comme le soulignait Tortorella, il dit, tu sais, on a parlé de la situation en début de saison, on a eu un meeting, l'éléphant dans la pièce, et tu sais, on en a parlé, puis après ça, les deux gars ont connu toute une saison. En fait, je pense que c'était moins vrai dans le cas de Bobrovsky, mais surtout Panarin. Alors, tu sais, il dit Dubois est pas dans cette situation là, c'est pas un futur agent libre, c'est un jeune joueur qui veut partir, la balle est dans son camp, et je suis assez d'accord avec Tortorella dans la mesure où Dubois a répété plusieurs fois pendant le point de presse que sa job c'était de jouer au hockey, puis la job de Tortorella c'était de coacher. Ben en clouant son joueur au banc l'autre soir, Tortorella a fait sa job de coach, mais en se traînant les pieds et en se montrant pas motivé alors qu'il veut être échangé, Dubois fait pas la sienne.
Ouais, Michael, t'as connu un peu Pierre-Luc Dubois au niveau junior. la question que les gens veulent savoir, parce que là, on a tous été surpris de voir ces images-là hier. On n'a pas apprécié, mais est-ce que c'est un joueur qui a un historique de, justement, quand ça fait pas son affaire, il donne pas l'effort, ou est-ce que vraiment ça te jette à terre et ça te surprend de voir ça?
Bien, historique, c'est peut-être un mot fort, mais je dirais que c'est arrivé à Pierre-Luc Dubois de se faire reprocher un peu de pas toujours avoir la pédale au plancher. Son intensité était à travailler, notamment quand il y a eu la transaction qui l'a envoyé à Boisbriand, là, avec Joël Bouchard et tout ça. Joël, on connaît son style, on connaît ses déclarations et tout ça. Ouais. Puis, il a pas hésité non plus à brasser Pierre-Luc Dubois. Okay. Puis, c'était pour le bien du jeune. Moi, c'est pourquoi j'ai un peu de malaise hier. C'est sûr que j'ai pas aimé, moi non plus, la séquence. Où est-ce qu'on voit Pierre-Luc Dubois ralentir? Son retour au banc, là, tu sais, moi, si je suis un entraîneur, je déteste voir ça. Puis c'est sûr que ça donne le goût de clou au blanc. Mais en même temps, je me mets un peu dans la peau de Pierre-Luc Dubois. Tu sais, ça dure depuis des mois. Humilié sur la place publique, parce qu'on va le dire, là, quand il y a eu l'épisode avec John Tortorella, l'espèce de pétage de plomb, la gestion qui en a suivi de ça, c'était pas beau à voir. Puis tu sais, je me mets dans la peau de Pierre-Luc Dubois. Peu importe ce qu'il va faire, on dirait qu'il est perdant. Parce que si, bon, il continue à se défoncer sur la glace et tout ça, les gens vont dire, ah ben vous voyez, John Tortorella, c'est tout un coach. Il est capable de fouetter ses gars, puis il est capable de ressortir le meilleur du jeune. C'est ce qu'on a vu dans la première saga entre les deux. Puis si jamais, ben il lève le pied un peu, puis tu sais, les échos là, qu'on a un peu à Columbus, oui, peut-être qu'il y a des coéquipiers qui n'aiment pas la façon de voir Pierre-Luc Dubois se comporter, mais il y a plusieurs personnes aussi qui n'aiment pas la façon que ça se passe en ce moment, la façon que les joueurs sont traités par l'entraîneur. Alors, tu sais, c'est comme à double jeu, c'est comme à double sens.
Tu sais, Michael, tu peux pas aimer, tu sais, soyons francs, là, puis peu importe le milieu de travail, tu peux pas aimer comment ça se passe présentement. Il y a un malaise. Là,
ben non,
si
ben,
ça
c'est
arrive
sûr.
Dans une salle de rédaction, dans une shop, n'importe où, tout le monde va être malaisé.
Ben oui,
pas
c'est
malaisé,
sûr.
Ça se dit pas, mais en tout cas, tout le monde va être mal à l'aise avec ce qui se passe.
Ouais.
Puis, ce que je trouve là-dedans, c'est qu'il y a quand même un manque de leadership de la haute direction des Blue Jackets. Je trouve qu'ils sont les plus fautifs. C'est pas vrai, là. Ils ont beau dire que se sont parlé dans le blanc des yeux avant la saison, l'abcès n'a pas été crevé.
Mais non, mais
il y a quelque part une situation qui perdure. Tout n'a pas été dit. Il y a beaucoup de non-dits. T'sais, dans les conférences de presse, hier, personne n'osait parler. Je veux dire, c'était comme, assister à un accident d'auto en direct. Là. Il n'y avait rien de le fun au ralenti. Il n'y avait rien de le fun là-dedans.
Non,
et
non.
Moi, je pense que le directeur général, en fait, des Blue Jackets ne prend pas ses responsabilités dans la situation présente. Écoutez, ça met... Tout le monde est mal à l'aise là-dedans. À un moment donné, ça devient comme quasiment le choix de pour le directeur général, est-ce que je prends le parti de Tortorella, je prends celui de Dubois? Est-ce que la valeur de Dubois diminue entre-temps? Est-ce qu'il va y avoir une fronde dans le vestiaire? Et plus ça dure, en fait, plus il va falloir que la direction des Blue Jackets mette fin à ça rapidement.
Je sais pas qui a été vu plus assis sur son banc hier. Pierre-Luc Dubois ou Bernie Sanders, mais on les a vus spinner sur les médias sociaux, même assis un à côté de l'autre. Je sais pas si vous avez vu. Mais Simon-Olivier, étant donné que tu as écouté le point de presse d'aujourd'hui de John Tortorella, est-ce que je me trompe ou je pense qu'il a dit qu'il n'a pas écarté la possibilité de tout simplement le rayer de l'alignement pour le match de demain? Là?
Non, exact. Il a pas dit qu'il écartait pas la possibilité, mais il a dit que il savait pas à quoi ressemblerait sa formation de demain parce qu'il y a des blessés, puis tatata, mais tu sais, on s'entend, là, il est pas blessé du bois, là, puis je veux dire, tu sais, s'il hésite entre Nathan Gerber présentement, c'est parce qu'il y a un problème. Fait que, tu sais, le fait qu'il entretienne ça, ça fait partie de son jeu aussi à Tortorella, puis de ses méthodes. Mais quand Alex disait que présentement, le directeur général, Keke Leinen, a comme pas choisi son camp, ben moi, je m'excuse, mais en ce qui me concerne, mon interprétation, c'est qu'il a choisi son camp. Il y aurait eu 1000 occasions de le congédier, John Tortorella, après l'altercation avec Dubois, justement, en série. Les Blue Jackets vont pas très loin en série chaque année, ont pas énormément progressé depuis 2 ou 3 ans. En début de saison, c'est pas un super début de saison à Columbus, cet incident-là. En n'ayant pas encore échangé Dubois et en ayant gardé Tortorella, ben, Keke Leinen, j'ai l'impression qu'il a un peu fait son lit, puis c'est un peu, c'est un peu peinturé dans le coin là-dedans, puis ça le fait pas bien paraître du tout lui non plus, comme disait Alex, sur le plan de la gestion, parce que c'est un peu celui qui présentement laisse la situation moisir. C'est Pierre Lebrun, je pense qu'il écrivait qu'il y a 20 équipes intéressées.
Ouais.
C'est sûr que les 20 équipes présentement pitchent pas leur meilleur offre dans mesure où ils savent
c'est
que
sûr.
L'équipe est coincée, sauf que éventuellement, faut falloir qu'ils prennent une décision.
Puis je vais te dire que dans l'opinion publique aussi, les images qu'on a vues hier, ça aide pas parce que, tu sais, on posait la question il y a de ça deux semaines, est-ce que vous seriez prêt à donner Suzuki? Il y en a qui disaient oui, après ça, ça s'est vite reviré en non. On lui dit, ah, ben peut-être un gars comme KK. Puis là, même aujourd'hui, je vois les gens, ouh, pas sûr, pas sûr. Après ce que j'ai vu hier, puis les directeurs généraux doivent se dire la même chose. Si je me retrouve avec dans une situation difficile avec lui, est-ce qu'il va me faire le même coup? En tout cas, donc, c'est pas une situation facile en espérant qu'on puisse trouver une solution rapidement. Les gars, faut parler un petit peu du Canadien quand même, là. Le Canadien est premier dans la Ligue nationale de hockey à égalité avec les Golden Knights. Moi, les gars, je me peux plus. Parce que, je vais être bien franc, je sais pas si vous avez lu mon papier hier là, là-dessus, mais depuis quelques années, là, j'avais un peu perdu la flamme. Tu sais, je me disais, cette organisation-là, elle s'en va où? Ça faisait 27 ans qu'on nous parlait de Coupe Stanley. En fait, on pouvait même pas parler de Coupe Stanley et du Canadien dans la même phrase sans faire rire de nous. Et là, je me surprends depuis le début de l'année. J'ai pas besoin d'avoir un téléphone dans mes mains pendant que je regarde le match pour me distraire. Je change pas le poste pour voir s'il y a d'autres choses qui se passent. Je suis scotché à ma télé. J'ai du fun, j'ai du plaisir. Je me distrais. Même mon garçon, qui va avoir 13 ans bientôt, qui avait lui aussi décroché, ne veut plus rater une minute. Il veut même plus aller se coucher, même s'il y a de l'école le lendemain. Puis le match finit tard parce qu'il veut voir le dernier but. Même si c'est rendu 6-3, puis j'ai dit, va te coucher. Il veut pas y aller. Donc, moi, je suis à terre et je veux vous entendre un premier commentaire général sur ce début de saison du Canadien. Mick, on peut commencer avec toi si tu veux.
Ben, on dira ce qu'on voudra, les gars, mais ça prouve une chose, c'est que l'attaque, là, ça fait réagir les partisans. C'est ça qui nous met dedans. Puis, tu sais, de voir le Canadien connaître ce genre de début de saison-là offensivement, il y a eu des changements et là, on sent que la chimie est en train de pogner ou ça, ou bien les tweets de Simon Olivier, là, qu'il a vraiment fouetté Toffoli. Mais, écoute, moi, je vois que justement, cette réaction-là en chaîne des partisans, c'est lié à l'éveil offensif du Canadien.
C'est sûr.
Oui, le Canadien joue bien et tout ça, mais offensivement, il se passe quelque chose.
C'est sûr. On n'a eu rien à se mettre sous la dent pendant des années, mais Simon Olivier va me dire le contraire. Il va me dire que ça fait pas si longtemps que ça que le Canadien a été une équipe dominante. T'as sorti des chiffres, Simon Olivier, là-dessus?
Ben effectivement, au cours de la saison 2016-2017, le Canadien a quand même gagné 13 de ses 16 premiers matchs. Et après 5 rencontres, avait marqué 20 buts. Donc, tu sais, c'est pas inédit ce qui se produit présentement. Là. Puis le Canadien avait effectivement terminé premier de sa division. Ça avait été une saison assez heureuse. Mais en fait, moi, je me garde une petite gêne d'abord. C'est pas mon rôle de m'emballer dans la mesure où je couvre l'équipe. Je suis pas payé pour cheerer. Mm-hmm. Mais tu sais, il y a quand même juste 5 matchs de jouer. Puis ce refrain-là, pour avoir, tu sais, avant d'être journaliste, effectivement, je suivais le hockey comme partisan de hockey. Mm-hmm. On l'a entendu souvent, les 4 trios qui marquent des buts, mm-hmm. L'équipe balancée, la profondeur, tout ça. Puis ça n'a pas toujours duré longtemps. Alors, je résiste un peu à la tentation de dire, bon, mais ben, ça y est, sont partis. Mais effectivement, il y a beaucoup de points intéressants présentement. Mais
j'ai longtemps pensé comme toi, Simon Olivier, mais cette année, moi, je suis convaincu. Alex, écoute, toi puis moi, on est les vétérans là, dans ce gang-là. Là, ça fait un bout qu'on est là. On les a vus, les années de misère du Canadien. Moi, je vois quelque chose de complètement différent.
Non, ben, moi, je suis très optimiste, en fait, pour l'équipe. Écoutez, là, ils marquent beaucoup, beaucoup de buts. Là. Ils ont 24 buts. Là. La deuxième équipe qui en a le plus dans la Ligue en date de vendredi, ce sont les Flyers qui en ont 19. Là. Puis demain, dans la division, c'est les Canucks qui en ont 17. Mm. Donc, ils marquent vraiment beaucoup de buts. Et ils marquent aussi des buts. Ils n'ont toujours pas affronté ni Winnipeg, ni Ottawa, qui sont probablement les deux clubs les plus faibles de la division en plus. Mm-hmm. Donc, tout ça laisse présager que, oui, ça va vraiment être une saison très forte offensivement. Le Canadien a aussi beaucoup de profondeur. Pour moi, c'est la grande différence avec les saisons précédentes où, écoutez, c'était les portes tournantes. Là. On savait même plus qui mettre sur le troisième trio, sur la deuxième paire de défenseurs. Là, il y a beaucoup d'options là, cette saison. Je disais, là, Armia est blessé, on va rentrer un nouveau joueur. Ouais. Il y a quand même des pires options dans la Ligue nationale de hockey que Michael Frolik puis Corey Perry. Pour un joueur de remplacement. Les 4 trios contribuent offensivement et à la défensive aussi. Là, Jeff Petrie était hier dans le top 10 des marqueurs de la Ligue nationale. Écoutez, c'est quand la dernière fois qu'un défenseur du Canadien était dans le top 10 des marqueurs de la Ligue?
Ça, je pense pas que ça va tenir.
Les 70, là?
Je pense pas que ça va tenir. Ça, c'est...
Non,
ça...
Bien sûr que non, dans le top 10, mais qu'il soit dans le top 10 des marqueurs des défenseurs de la Ligue, c'est une possibilité. Et l'avantage numérique fonctionne super bien. Ouais. L'année dernière, ce qu'on oublie, là, l'année dernière, le Canadien a une saison misérable.
mais elle a été probablement la deuxième meilleure équipe de toute la Ligue nationale à 55. Mm-hmm. Ce sont les unités spéciales qui les ont vraiment coupées et Kate Kincaid.
Oui.
Ils ont réglé ces deux problèmes-là. Ils ont vraiment un meilleur... Non, mais écoutez, Kate Kincaid, en 6 parties l'année dernière, était moins 9 pour les buts qu'il aurait dû accorder ou pas. Il était dans les pires joueurs de la Ligue en 6 matchs seulement. Mm-hmm. Là. Le Jake Allen porte vraiment... vraiment réduit le différentiel de but de façon importante. Et l'avantage numérique, présentement, est à 30%. Ça fait vraiment longtemps, là, je veux dire, qu'on a vu le Canadien obtenir des succès en avantage numérique. Tout ça me laisse présager vraiment que du positif pour les prochaines semaines.
Oui, je suis d'accord avec toi. Écoute, la profondeur est vraiment présente. Je suis pas certain. Tu sais, je pense que ça va être une équipe qui va marquer des buts en équipe. Je pense pas qu'il y a un gars là-dedans qui va finir premier marqueur de la Ligue ou quoi que ce soit. Ça, c'est, écoute, à un moment donné, on peut pas tout avoir.
Toffoli, premier marqueur de la Ligue ce matin.
Ben oui, le nouveau Michael Ryder du Canadien. Il y en a plusieurs qui mentionnaient ça. Pas juste parce qu'il porte le 73 comme Ryder. Mais son tir, quand vous regardez son tir et l'utilisation qu'il en fait, et souvenez-vous de Michael Ryder, il était capable de vous marquer 4-5 buts en 2, 3, 4 matchs. Après ça, on le voyait pas pendant une couple de semaines. Mais il me fait vraiment penser à lui,
Simon. Moi, je pense vraiment que c'est Simon Olivier qui l'a fouetté. Hein.
Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Fait deux choses. D'abord, par rapport à Ryder, en plus, c'est drôle parce qu'il ressemble physiquement.
Même son visage.
Je pense que Toffoli est un joueur beaucoup plus polyvalent que Ryder. Joue en désavantage numérique également, se positionne mieux et plus engagé dans le jeu en général. Mais juste revenir sur justement les énormes enthousiasmes. Un élément qui nourrit mes réserves, c'est la qualité de l'opposition. Le Canadien a affronté des gros clubs offensifs. Mm-hmm. Toronto, Edmonton, maintenant Vancouver, mais a affronté des défenses ordinaires, soyons polis, et des gardiens ordinaires ou mauvais. Tu sais, Koskinen, c'était une catastrophe là à Edmonton. Cette semaine, Oldie et Demko, ça va pas bien du tout. La défense des Canucks, c'est horrible là, avec les blessés en plus qu'ils ont. Quinn Hughes, en plus, ne joue pas bien contre le Canadien. N'a pas bien joué contre le Canadien cette semaine. Fait que tu sais, je trouve que la visite des Flames de Calgary à Montréal la semaine prochaine va être peut-être un peu une mesure de d'où en est le Canadien contre une équipe qui a des vrais défenseurs, qui a un vrai gardien de but. Parce que présentement, écoute, hier soir, moi j'avais l'impression de regarder un match de Ligue de garage quand Demko a hésité à aller chercher la rondelle puis que Byron a foncé seul pour remettre à Evans en avant, c'était d'une tristesse incroyable. Et les pauvres défenseurs qui jouaient leurs quelques premiers matchs en Ligue nationale et où les vétérans comme Schmidt ou comme même Myers avant l'incident de la fin, qui savaient plus à quel sein se vouer.
Myers hier, c'était épouvantable. On avait l'impression d'un gars qui jouait à Marco Polo les yeux fermés sur la glace. C'est une des pires performances que j'ai vues. Écoute, Jack Johnson, l'année dernière, avait pas très bien joué dans les séries, mais tu sais, c'était très semblable. Ceci dit, Simon Olivier, il reste quand même 10 matchs contre les Sénateurs qui ont une défense encore pire que celle des Canucks.
Mais écoute, étant donné que tu parles de Tyler Myers, là, on va embarquer sur le sujet tout de suite, là, puis on reviendra à nos moutons tantôt. Mais tu parles de jouer les yeux fermés, là. Aïe aïe, je veux dire, le coup qui assène à Joel Armia, je veux dire, on met l'emphase sur exactement ce type de jeu-là où des joueurs de haut calibre comme ça, ils savent ce qu'ils font, sont capables de s'ajuster aussi, et lui ne le fait pas du tout. Il sait exactement ce qu'il fait, il lève même l'épaule pour s'assurer de bien frapper la tête de Joel Armia. Écoute, au moment où on enregistre ce balado, on n'a pas encore l'information, mais...
Oui, en fait, il n'a pas été suspendu.
Il n'a pas été suspendu?
Voilà, il n'y a pas de suspension.
Oh! Non! Oh! Hey, bravo, la Ligue nationale.
Je vais citer François Gagnon sur les réseaux sociaux qui marque « Après analyse de la collision, la LNH détermine que la majorité de l'impact initial a été encaissé par la poitrine de Joel Armia et non la tête. »
So what? So what? Convenu. Non, mais c'est une joke, ça.
Tu résumes tellement ça. Ouais. Non, je pense que c'est exactement ma réaction. So what? Parce que c'est blindside, c'est dangereux. Il y a une intention. Les vidéos sont claires. On peut débattre, est-ce que la tête est le premier point de contact ou pas? Mais moi, rendu là, ça n'a pas d'importance. Savez-vous, les gars, parce que, premièrement, écoute, 6 pieds 8, 230 livres, c'est un train qui arrive en direction de Armia. Il est dans l'angle mort. C'est un coup dangereux avec une intention. Moi, que la tête soit le premier point de contact, c'est sûr que c'est aggravant. Ouais. Sauf que, ça doit être sanctionné. Moi, je pense que c'est tellement un mauvais message qui est envoyé par la Ligue nationale. Puis ça, là, on en a une fois, puis une autre fois, puis une autre fois à chaque saison. Puis ça, me semble que tellement une occasion ratée par la Ligue là-dessus.
Les gars, c'est une disgrâce, on va se le dire. Là. Parle à n'importe quel médecin, puis il va te dire que c'est pas nécessairement le coup ou où est-ce que t'encaisses le coup, mais c'est plutôt l'effet du whiplash, là, c'est-à-dire, tu sais, lorsque le corps balance vers l'arrière, on sait que le cerveau se promène dans la boîte crânienne et surtout aussi le contact au sol. Donc, que tu l'aies frappé direct à la tête ou que ce soit en dessous de la mâchoire ou dans la gorge ou dans la poitrine, tu sais que t'as une chance... épouvantable de blesser un gars, tu rentres dedans comme un train pareil, puis on accepte ça. Tu sais, je veux dire, on essaye de... On s'en fâche d'un fleur du tapis là-dedans.
Ça, ça va au-delà de ça. C'est aussi l'exemple, en fait, que la Ligue nationale donne de son produit. Tu sais, Michael, t'en suis beaucoup là, du hockey mineur ou en tout cas du junior majeur, tu sais. Il y a un effet d'émulation. T'sais. Quand ça s'est permis dans la Ligue nationale, il y a des joueurs plus jeunes qui regardent ces gestes-là, pis dont les parents encouragent ces gestes-là, ils aiment ce type de hockey et qui répliquent après ça ces gestes-là. J'en ai vu tellement, là, dans les 10 dernières années, j'ai dû passer 2000 jours dans des arénas, j'en ai vu tellement des coups comme ça. Pis tant que ça va être permis dans la Ligue nationale, il va toujours avoir quelqu'un qui va dire « Ah, le point de contact, le premier point de contact, c'était pas la tête.
Ah, ouais, mais ça, c'est
un
télégarde
de sa passe. »
Ah, mais c'est des innocents,
il était peut-être
ça.
En angle de 30 degrés. Par rapport. Mais tu sais, au-delà de ça, ce sont des coups qui ne devraient juste plus exister au hockey. Ça n'a juste pas sa place dans aucun autre sport, par ailleurs.
Mais non, mais c'est ça que je te dis. Je veux dire, c'est des innocents qui parlent de même. Parce que comme on dit, non, mais tu peux, par exemple, être impliqué dans un accident de la route, puis ta tête comme telle ne frappe pas le pare-brise ou le volant, mais l'effet du whiplash va te donner une commotion cérébrale quand même. Simon-Olivier, là-dessus?
En fait, ben, j'ai pas vraiment à commenter ce que t'apportes en mesure où c'est factuel, mais ce qui me surprend d'autant plus, c'est les circonstances du coup. Il reste 2 minutes et demie au match, ce match-là est terminé, c'est 6-3, le Canadien a dominé outrageusement au début de la deuxième. Myers n'est pas dans le jeu, Armia est surveillé par Bo Horvat, dispute la rondelle avec Brock Besser, ces deux gars-là ont... Tu sais, il s'occupe de lui. Myers s'invite dans la séquence, fonce complètement. Tu sais, après ça, j'entendais son entraîneur dire, ouais, mais c'est un grand gars, 6'8". Tu sais, c'est son problème. Là. C'est pas le mien. Je veux dire, c'est quoi? Fait que ce sera pas grave à cause vu que c'est un grand joueur. Je suis parfaitement d'accord avec vous que je pense que c'est pas tant. Ben, je veux dire, je souhaite à Armia que la commotion se guérisse rapidement puis qu'il puisse revenir au jeu. Mais je pense que le message, le symbole que ça incarne, c'est encore plus dommageable. Surtout dans une saison où les équipes vont s'affronter 2 fois de suite, 3 fois de suite, plusieurs fois. J'ai l'impression qu'il y a une surenchère qui pourrait arriver si jamais la tension montait. Je pense qu'il y avait une occasion de déteindre ça rapidement puis visiblement rapidement.
Non, mais pouvez-vous penser pour vrai qu'un geste comme ça, mettons, ne soit pas sanctionné au football ou au basketball?
Ça serait
impensable. Je veux dire, jamais au football, la NFL tolérerait un geste d'une telle violence qui a aucun impact sur le résultat du match, qui a aucun impact même sur le jeu en cours, ne soit pas puni. Pour moi, là, c'est un manque clair, net de leadership de la part de la Ligue nationale de hockey, de son bureau, de la supposée sécurité des joueurs. Là. Je m'excuse, si ta job, c'est de protéger les joueurs ou de t'assurer de la sécurité, ce geste-là est banni. Et sévèrement, là, on parle pas ici de 1 ou 2 matchs de suspension. C'est arrivé en plus à la fin du match. Il y a quasiment pas eu de punition hockey pour les Canucks là-dedans. Et à mon avis, là, pour vrai, ça méritait un minimum de 5 matchs. Puis même, j'aurais été plus vers le 10 que le 5.
Ben, en tout cas, si Joel Armia a une commotion cérébrale, ça vient prouver le fait que, peu importe où le point de contact a été, le dommage a été fait. C'est ça qu'on veut éviter. C'est la blessure comme telle. Donc là, on n'arrive pas à nos fins là-dedans.
Ouais, le point de contact, Jérémy, quand tu te fais frapper par un arrière sur la barre de la bande, puis le point de contact premier, c'est pas la tête, mais t'as un crochet dans le cou, ou t'as un double échec dans le cou, t'as un double échec dans les épaules, puis c'est ta face qui est projetée contre.
Mais tu sais, tu parles du football.
La bande, c'est pas la tête, puis je veux dire, c'est dangereux quand même. Là. Un coup de genou qui sort, c'est dangereux pareil.
Tu parles du football. On a eu ce problème-là au tout début où les gars disaient, ouais, mais j'ai frappé le corps arrière à la tête, mais regarde comment je suis grand comparativement à lui, puis on dit non. T'es responsable de ton propre corps, là. Tu fais pas 6'3" depuis hier, là. Habitue-toi. Puis ça a été la même chose pour les bâtons élevés dans la Ligue nationale, qui les gars disaient, ah, mais le gars, il est petit, c'est pour ça que je l'ai. Non, regarde, t'es responsable de ton bâton, puis that's it, that's all. En tout cas, Mick, je sais pas ce que t'en penses.
Et ce qui m'écœure de ça, moi, c'est qu'en plus, ça donne de l'eau au moulin des dinosaures du hockey qui vont dire, ben, ça va se régler sur la patinoire. Là, le prochain match est entre ces deux équipes-là.
Exact.
Est-ce que, tu sais, le message qui est envoyé, c'est totalement le mauvais message.
Puis, tu sais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Michael, parce que là, il y a les séries baseball, là, qui sont là. Donc, les équipes s'affrontent 2, 3, 4 fois de suite,
t'sais. C'est ça.
Puis moi, ce qu'on m'expliquait dans le junior majeur, au début de la saison, quand il était question d'abolir les bagarres, il y en avait qui étaient pas tout à fait pour, il y en avait qui étaient contre l'abolition des bagarres, puis qui disaient, écoutez, là, on va jouer 10, 12 fois contre les mêmes équipes cette année, ce qui était jamais arrivé, là, dans l'histoire du junior majeur. Puis, les joueurs, là, tu sais, il va y avoir beaucoup de tensions, en fait, entre deux équipes qui vont s'affronter si souvent. Puis là, il va falloir se défendre et tout, tu sais. Mais ça va être la même chose à la Ligue nationale de hockey. C'est sûr que jouer 4 fois en 6 soirs ou en 7 soirs contre une équipe, il va avoir une accumulation de tensions. Le match de demain, ils vont avoir une revanche. Le Canadien va prendre sa revanche.
C'est
comme
sûr.
Comme dit Michael, ça répond exactement à ce que disent les dinosaures du hockey.
Oui. Non, écoute, je suis d'accord avec vous. Puis justement, j'avais mis ce sujet-là sur notre liste de sujets, là, à savoir, est-ce que vous aimez le calendrier des fameuses séries type baseball?
Ah oui.
mais c'est sûr si les arbitres font pas leur travail, ça peut dégénérer.
Ben, c'est le fun. Tu sais, Jérémy, c'est le fun. Je vais attendre les autres, mais c'est vraiment le fun. Pour moi, les séries baseball... on connaît mieux les joueurs, on les suit quand même pendant presque une semaine, pendant 5-6 jours. T'sais, maintenant, on est au courant, c'est qui les défenseurs 4-5-6 des Canucks qui vont changer, vont rentrer dans l'alignement. C'est comme un petit peu le feeling des séries éliminatoires, mais à toutes les semaines. Moi personnellement, j'adore. Je suis vraiment un fan de cette formule-là au baseball, puis de l'avoir appliquée au hockey, ne serait-ce que pour une saison. Moi, j'embarque totalement là-dedans.
Ouais. Ben, écoute, je pense que la formule ne durera pas éternellement, mais on peut peut-être tirer certaines conclusions qu'on va ajouter au calendrier.
Ben, il y en a beaucoup au hockey junior, hein, Michael?
Oui, ben c'est ça, puis exactement. Puis c'est peut-être, ça va peut-être, tu sais, là, on parle comme si que ça va, tu sais, ça ne durera pas dans le temps, mais peut-être qu'on va y voir une certaine façon aussi de sauver des coûts. Tu sais, il va falloir trouver des façons à la Ligue nationale d'essayer de trouver. Ça va être un département des miracles là, dans les prochaines années si les salaires, on veut continuer à essayer de bien payer les joueurs et tout ça, puis que les revenus stagnent, il va falloir trouver une façon de réduire, puis c'est peut-être une façon d'y arriver.
Oui, absolument.
Je pense qu'il pourrait avoir une formule un peu hybride qui ferait en sorte que les séries de matchs réservées contre certaines équipes, parce qu'on s'entend que pendant une saison normale, le Canadien affronterait, disons, Boston, Toronto, quoi, 6 fois peut-être. Mm-hmm. On veut pas nécessairement, je pense que ces 6 rendez-vous-là sont appréciés, mais contre des équipes contre lesquelles il y a moins ou pas de rivalité naturelle, que ce soit les Islanders de New York ou les Sabres ou je ne sais quoi, faire un 2 matchs au New Jersey, 2 matchs plus tard dans la saison à Montréal, je pense que c'est un format qui pourrait être intéressant.
Bon, écoutez, on a parlé du manque de discipline de Tyler Myers, mais il faut parler un petit peu aussi du manque de discipline du Canadien. Écoutez, je pense que dans les 4 premiers matchs, on a vu un joueur lancer la rondelle chez les spectateurs. Là, il n'y en a pas de spectateurs, mais dans les gradins, c'est assez inusité, là, 4 matchs consécutivement. Sauf que le Canadien paye, oui, parce qu'ils se font marquer des buts aussi, ont des avantages numériques, mais trouvent toujours le moyen de revenir de l'arrière, de marquer des buts et de rester dans les matchs. Moi, les gars, le point qu'on est allé chercher mercredi, c'est un point inespéré, là. Je veux dire, les Canadiens ne méritaient pas d'aller chercher ce point-là. Mais de voir qu'on est capable d'être indiscipliné, des fois aussi de pêcher défensivement, de pas jouer son meilleur hockey défensif, mais de quand même sortir de là avec des points, c'est assez miraculé, là, parce que normalement, on se le dit, là, l'équipe qui passe la majorité de la soirée au cachot perd les matchs. L'équipe qui joue pas bien défensivement perd ses matchs. Et les Canadiens trouvent quand même le moyen de ramasser des points.
Je vais avoir l'air d'un disque qui saute, mais je pense que la qualité de l'opposition a beaucoup à pour jouer là-dedans. L'autre soir contre les Canucks, effectivement, le Canadien est revenu dans le match plusieurs fois, c'était pas pire. Contre les Oilers n'ont pas une très bonne équipe. Les Oilers ont 2 ex-joueurs exceptionnels, ont quelques bons joueurs, mais ont majoritairement des joueurs ordinaires. Et le Canadien va se brûler à jouer ce type de jeu-là contre des équipes de plus fort calibre, que ce soit pendant la saison ou pendant les séries. Si le Canadien devait faire un bon bout de chemin, se retrouver, par exemple, en demi-finale de la Coupe Stanley, contre une équipe qui serait vraisemblablement largement supérieure à ce qu'ils affrontent en saison, la donne pourrait être différente.
Bon, OK.
Tu peux pas écoper de mauvaise. Tu peux pas écoper de mauvaises pénalités.
Il y en a eu plusieurs.
Ils ont été sauvés par le fait que le jeu de puissance a compensé. On marque des buts. Exact. Mais à un certain moment donné, si tu regardes l'infériorité numérique à 76%, il va falloir que tu continues à marquer en avantage numérique là, si tu veux continuer à gagner en écopant d'autant de pénalités.
Ouais, et en désavantage numérique, parce qu'ils ont déjà 4 buts à date. Peut-être que c'est une nouvelle stratégie.
Ben, ça, c'est vrai. Puis c'est spectaculaire aussi en même temps. Puis ça nous surprend tout le temps. Puis je trouve que c'est...
Ouais, il y a eu des cadeaux hier. Là, oui. Les défenseurs des... ou c'est Peterson. En tout cas, il y en a un défenseur Peterson qui a fait une passe par en arrière en échappé. C'est comme... Oh, mon Dieu!
Ben oui. Non, c'était pas fort. C'était pas fort. Mais écoute, dans le cas de Claude Julien, moi, les gars, juste de le voir être capable deux fois cette semaine... de rouler son effectif à un tel point où tu te retrouves avec un quatrième trio qui joue pratiquement le même nombre de minutes que les trois premiers, un gars comme Romanov qui s'avère le défenseur le plus utilisé. Guys, c'est un luxe, là. C'est un luxe qui va aider le Canadien sur le long terme, parce que si tu es capable de rentrer dans les troisièmes périodes avec une avance de 3 puis 4 buts, c'est incroyable pour un entraîneur. Et je veux dire, quand est-ce dans le passé vous avez vu Claude Julien avoir ce type de luxe-là? Jamais, jamais.
Ben, j'aime ça t'entendre dire des choses positives sur Claude Julien. Je sens que ton discours rejoint de plus en plus le mien, Jérémy. C'est...
Non, mais écoute, moi, Regarde, je colle les affaires en plein milieu. Quand c'est bon, je le dis. Quand c'est pas bon, je le dis. Mais présentement, je veux dire, moi, je suis tout à fait d'accord de la façon dont il gère. Je suis content de voir ça, parce que il faut que tu sois intelligent sur une courte saison comme ça, où tu vas avoir tellement de matchs. Là, on va peut-être avoir des changements dans l'alignement là, au cours du prochain match à cause des blessures potentielles à Armia. Je sais pas si vous avez du nouveau sur Byron aussi.
En fait, le Canadien s'est pas entraîné encore. Il s'entraîne juste à 16h30 heure de Montréal. Fait qu'on devrait savoir vers 17h, 17h15 à peu près ce qui arrive avec Byron. Mais j'ai écouté, je sais pas, ma perception vaut la vôtre, mais ça. S'il joue, il va jouer à Moshé, parce que ça faisait très, très, très mal hier.
Moi, je pense que les gars, c'est
le moment. Il va falloir les.
Ouais, c'est le moment de faire quelques rotations.
Il va falloir aussi donner d'entrer les Frolic et tout ça. T'sais, on veut leur donner la chance de s'intégrer à cette équipe-là. On ne peut pas attendre éternellement non plus. Donc, il y a une belle opportunité là.
En tout cas, moi, il y a une chose, les gars. Tu sais, tu parlais de Claude Julien. Moi, je suis en train de remarquer une chose, parce que on a mis en doute les capacités de Marc Bergevin. On a remis en doute les capacités de Claude Julien. Mais on remarque une chose. Quand le boss en rôle propriétaire te permet de travailler au maximum de tes capacités, hein, que ce soit Marc Bergevin dans ce cas-ci, qui a fait des ajouts intéressants cette année, et Claude Julien qui a ces éléments-là dans ses mains, tout le monde paraît tellement mieux. Tu sais, on a piqué souvent là sa tête de Jeff Molson pour dire « Colin Debin, pourquoi tu te mets tout le temps 10 puis 12 millions d'impoches à chaque année? Pourquoi tu donnes pas ça à ton directeur général? » Je pense qu'on est en mesure de prouver maintenant que si tu donnes ces deux gars-là, Claude Julien et Marc Bergevin, c'est des hommes compétents, mais il faut que tu leur permettes de travailler avec le maximum des éléments possibles.
Je pense que Marc Bergevin avait la marge de manœuvre. Il a fait des offres, par exemple, à Jack Gardiner, qui a refusé. Donc, il y avait cette volonté-là de dépenser le plafond salarial. Je pense juste qu'il n'a pas été capable de le dépenser finalement. Mais moi, ce qui m'encourage, en fait, c'est l'année dernière, ce qui était déprimant, c'est qu'on savait pas où le Canadien s'en allait. On savait pas s'il était pour vider le club,
c'est vrai.
Pour couler au classement. On n'en parle plus du tout là, du tanking. Là. Ben, et on en a-tu parlé là, l'année dernière de cette stratégie-là? Là, on n'en entend plus parler. Et le Canadien a finalement fait son choix. Pour moi, là, c'est ce qui était difficile l'année dernière. C'est le limbo de 4-5 mois où de quel côté la toast elle va tomber. T'sais, est-ce qu'on va couler? Est-ce qu'on va se renflouer? Et moi, d'avoir que le Canadien a choisi de se renflouer et de voir que la fenêtre d'opportunité, elle pouvait s'ouvrir, et d'avoir foncé, d'avoir pris, c'est quand même des risques immenses. Oui. Le contrat de Josh Anderson, c'est un risque encore.
C'est sûr.
Et de réussir, pour moi, tout ça est quand même très emballant.
Mais à un moment donné, il faut t'essayer. C'est ça, Alex, l'affaire que je disais toujours. Simon-Olivier, tu peux embarquer là-dessus aussi, c'est que tu peux avoir des années où tu décides, garde, ce serait plus intelligent cette année de garder notre argent pour l'année prochaine. On n'a pas le club pour. Puis les gens comprennent. Les gens sont pas stupides. Les gens suivent le hockey depuis tellement longtemps. Mais la roue, faut qu'elle tourne. Puis à un moment donné, là, c'est toi qu'il faut qu'il soit en haut de la roue. Puis c'est toi qu'il faut qu'il botte des derrières pendant 2 ou 3 saisons pour que tes amateurs aient un peu de fun. Sinon, tu perds ton monde. Donc, moi, je pense qu'il n'y avait pas le choix que de s'en aller dans cette direction-là.
Ben, c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est des discussions qu'on a eu beaucoup l'année passée sur l'espèce de branding, excusez-moi l'expression ambiguë du Canadien.
Hey, parle-moi pas de branding.
L'image de marque, pour mieux parler français, que c'était clairement pas un club équipé pour atteindre les séries, encore moins pour faire du chemin. Et pendant l'hiver, avant que la COVID frappe, tu sais, on se rappelle au mois de février quand Carey Price gardait tous les matchs et que là, Julien arrivait en disant, ouais, mais là, on a un jour de repos après, puis ouais, ben là, on a encore une chance, puis tu sais, qu'on calculait les, ben, ouais, ouais. Si la Floride continue de perdre, puis un point là, puis là, il y a 4 points, puis 2 points, tu sais, c'était, on le savait tous, là, que le Canadien, l'édition 2019-20 du Canadien ne s'en allait nulle part. Fait que cette saison, ben, effectivement, je pense que Bergevin a vu la fenêtre s'ouvrir, puis il est allé à fond. Puis présentement, il paraît très bien, son entraîneur aussi, ça paye. Mais, et je sais que je suis fatiguant avec ça, soyons prudents et jugeons-les quand ça ira un peu moins bien. Je pense que ça va être extrêmement intéressant à suivre.
Oui, ouais, t'as absolument raison. Puis on est heureux de ne plus être dans le monde de faisons les séries. Puis avec Carey Price, on ne sait jamais, mais en fait, on le savait. Il n'y avait aucune chance, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, on finit avec Alex Ovechkin. Il faut parler d'Alex Ovechkin parce que là, on n'aura pas le temps de faire le tour de tous les sujets de la Ligue nationale. On en a déjà épluché quelques-uns. Mais bon, Alex Ovechkin et ses 3 comparses vont devoir rater les 4 prochains matchs des Capitals parce qu'ils se sont réunis dans une chambre d'hôtel. Les gars ont contracté le virus et tout ça. Ils vont devoir se mettre en quarantaine. Là, du côté des Capitals, bien sûr, on s'excuse publiquement. On va payer l'amende de 100 000 $. Il y a même la conjointe d'Alex Ovechkin qui s'en est mêlée. Qui veut me démêler ça un peu, là?
Ben, nous, on a eu la discussion, Simon, puis moi, hier, faisons, Simon.
Allez-y donc, racontez-nous donc ça.
Ben, en fait, je pense que tu l'as quand même bien raconté, mais il n'y a pas, tu sais, la conjointe de Ovechkin a fait 2 remarques. C'est-à-dire, d'abord, elle comprenait pas l'idée que les joueurs sont ensemble sur la glace, à l'entraînement, en match, pas de masque et tout, mais qu'une fois à l'hôtel, ils peuvent pas respirer le même air dans une chambre.
Il y a quand même une certaine logique, là.
Peut se défendre. Mais après ça, quand elle embarque sur la Ligue très petite, le fait que c'est des Russes, que les Russes sont ciblés, je pense que Washington a fait des bonnes choses pour ses joueurs russes au cours des années. Mon degré de sympathie est extrêmement faible, voire nul, pour les 4 joueurs des Capitals qui se sont fait prendre. Parce que, je veux dire, le règlement était clair, le protocole était élaboré avec l'association des joueurs. Les joueurs peuvent pas fraterniser dans une même chambre d'hôtel en dehors de n'importe quand. Puis c'est bien dommage pour les Capitals. Peut-être vont-ils perdre des points de classement avec ça, mais bon, c'est comme ça. Puis je pense que ça envoie au moins un exemple pour les autres équipes de la Ligue de dire marchez droit parce que ça peut compromettre votre saison.
Ouais. Et c'est sûr que tu dis crime, c'est la même bulle. Les gars sont ensemble dans le vestiaire, sont ensemble sur la glace. Est-ce que vraiment ils ont contracté le virus à ce moment-là lorsqu'ils étaient dans leur chambre d'hôtel?
Bulle, Jérémy. Ils voient leurs conjoints, leurs enfants qui vont à l'école. Ils croisent vraiment beaucoup de monde. Puis c'est un petit peu faussé parce qu'on n'arrive pas à dire ils sont comme dans une bulle. Hein. Les protocoles sont très, très, très serrés. Il y a quand même eu 3 grosses éclosions dans la première semaine d'activité. Dallas, il y a eu 17 cas. Il y en a eu 6 en Caroline. Il y en a eu 4 à Washington. Et il faut pas se surprendre, ça va être comme ça toute la saison. Ça a été comme ça au baseball majeur. Ça a été comme ça dans la NFL. Ce n'est pas une vraie bulle. Ouais. Et tant qu'il n'y aura pas de vraie bulle, il va en avoir des cas comme ça.
En tout cas, une chose est certaine, Michael, peut-être que tu veux embarquer là-dessus, avec les Jeux olympiques qui potentiellement pourraient être annulés cet été, ben NBC pourrait continuer à présenter du hockey peut-être quelques semaines de plus et peut-être qu'on va pouvoir rattraper ces matchs perdus-là un peu plus tard durant l'année alors qu'on pensait vraiment qu'on était coincé dans le temps à cause des Olympiques puis qu'il allait vraiment pas avoir assez de temps pour ajouter quelques matchs là à la fin de la saison pour que toutes les équipes puissent jouer le même nombre de matchs. On verra, mais il y a peut-être une ouverture là.
Ouais, exactement. Puis, tu sais, la futurologie avec tout ce qui s'est passé en un an, ça a été difficile de se projeter dans le futur. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver. On souhaite le meilleur. Puis, s'il y a une possibilité, ça sera tant mieux pour tout le monde. Mais moi, je trouve que le message qui est envoyé par la Ligue nationale là-dedans, c'est le bon. Dans le sens que on veut dire à tout le monde, hey, T'sais, on doit limiter le plus possible, puis inviter tout le monde à respecter les grands principes, parce que comme le dit Alex, c'est pas une bulle qui est étanche, puis il y a des contacts et tout ça, puis s'il y a dû laisser aller à gauche, à droite, ben on multiplie les chances qu'il y ait des éclosions.
Bon, les gars, je voulais vous parler de Carey Price, mais on n'aura pas eu le temps aujourd'hui. Je vous garde ça pour la semaine prochaine, OK? Mais je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir, OK? Je vais pas commencer à taper sur la tête de Carey Price, pas du tout, pas du tout, pas du tout, mais je vais vous poser la question tout de suite. Vous pourrez y réfléchir durant le week-end, puis on se reprend là-dessus la semaine prochaine. Si vous étiez un DG de la Ligue nationale aujourd'hui et que vous partiez une équipe, et je vous dis, moi j'ai un gardien à vous offrir. Il fait 10,5 millions par année, et ce, pour les 5 prochaines années. Il s'appelle Carey Price. Est-ce que vous le prenez dans votre équation de plafond salarial? Est-ce que vous partez votre équipe avec lui? Je vous laisse ça de même, puis après ça, on va développer la semaine prochaine sur ce sujet-là. Mais messieurs, Simon-Olivier Lorange, Alexandre Pratt et Michael Lalancette, merci beaucoup pour, encore une fois, votre temps aujourd'hui, en espérant que les gens aient apprécié le programme. Merci aussi Geoffroy Morin à la mise en onde. Et on se redonne rendez-vous lundi de la semaine prochaine. Salut et bonne fin de semaine.